Donc, je vais essayer de vous présenter un livre de Jean-Louis Chrétien qui s'appelle « Fragilité ». Voilà, je vous le fais passer. Alors, si, quand même, quelques mots sur l'auteur. C'est un philosophe qui est né en 52, qui a été professeur à la Sorbonne et à l'École normale supérieure, spécialiste de philosophie antique tardive et du haut Moyen-Âge. Il a écrit à peu près une trentaine d'ouvrages et il est un des représentants de ce qu'on a appelé le tournant théologique de la phénoménologie française. Voilà. Alors sinon, cet ouvrage, je l'avais choisi parce qu'il me semblait proche de l'actualité concernant la vulnérabilité, le handicap, ce qu'on appelle la société victimaire, compassionnelle. Et puis l'injonction inclusive, le CAR, etc. En réalité, cet ouvrage présente une analyse plus fondamentale des aspects de la condition humaine. La fragilité y apparaît comme un concept décisif pour penser la condition humaine. Alors ce livre propose une phénoménologie de la fragilité qui se présente comme une traversée des métaphores, des figures, des formes, des lieux de la fragilité et parallèlement comme un parcours historique des différentes approches philosophiques de cette notion. Alors ce livre comprend 8 chapitres que l'on peut réunir en 2 parties. La partie qui comprend les chapitres de 1 à 5 qui est une partie plutôt descriptive et puis les chapitres 6 à 8 qui est une partie plutôt normative, dans laquelle l'auteur envisage les différentes façons d'aborder la fragilité. Alors l'introduction, je m'arrête sur l'introduction parce qu'elle est relativement copieuse, elle fait au moins 40 pages. Dans cette introduction, l'auteur défriche le champ sémantique et l'étymologie de la fragilité. Dès la première phrase, il donne la définition suivante. « Est fragile ce qui peut se briser ». Entre parenthèses, facilement. Alors ce mot n'a pas d'antonyme, il est inconnu des Grecs. Le plus proche des mots grecs, c'est le mot asthénia, qui signifie manque de force physique ou morale, voire de la maladie. Et donc ce terme de fragilité est plutôt un concept latin, et il renvoie à une qualité intrinsèque de l'objet. Le latin « fragilis » donne deux mots, le mot « fragile » d'un côté et le mot « frêle », c'est-à-dire deux sens qui mettent en tension les aspects corporels, purs, ce qui est frêle, par exemple, et des aspects plus incorporels, psychologiques ou moraux, de la fragilité. Donc « fragile » renvoie plutôt à ça. Alors, autour de la fragilité, on va avoir un certain nombre un halo de sens, de champ sémantique, qui renvoie à la temporalité, à la caducité, à la labilité, au glissement, et le glissement qui donne le mot lubrique par la suite, défaillance, faillibilité, tendance au mal. Dans ce halo sémantique de la fragilité, il y a d'une part l'ombre de la pensée chrétienne avec le péché originel, et les lumières de la prudence morale, de la conscience, du discernement, qui sont à la base du vécu de la fragilité. Voilà pour l'introduction. Et donc, les chapitres suivants, il va examiner un certain nombre de lieux métaphoriques de la fragilité. Alors, la première image de la fragilité, c'est la naissance. La naissance est un lieu commun qui définit l'état de détresse absolue. L'enfant qui vient de naître est comme un naufragé perdu dans un monde hostile. Sa nudité est l'emblème de la misère, et il renvoie à un certain nombre d'auteurs qui ont souligné cet aspect, Lucrèce, Pline, Pascal, Tertullien. À travers la naissance, cette fragilité totale suscite deux mouvements. Le premier, c'est la honte, le dégoût, l'humilité, la condamnation de l'orgueil. Et le deuxième, l'impérieuse nécessité de la sollicitude d'autrui, le besoin de protection. Une deuxième métaphore apparaît dans l'analyse de cette notion. dans le chapitre 2, c'est la fragilité du verre. Le verre est autrefois l'argile. Alors, cette représentation occupe une place à part parce qu'elle montre l'ambivalence, voire l'oxymore de la fragilité, qui est à la fois solide et pouvant se briser. Mais aussi, parallèlement, le verre sert d'exutoire à l'impuissance dans l'expression de la colère. C'est-à-dire que quand on est en colère, on casse des vases et on casse des verres, on casse de la vaisselle, voilà. Donc la fragilité est un aveu de faiblesse. Elle exige de prendre des précautions, de faire attention, faire de la prudence. Et à travers le verre, on appréhende l'événement susceptible de le briser. De là sort le drame shakespearien. Mais à l'inverse, le verre permet de relever des affects de résistance. Je ne suis pas de verre, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Troisièmement, elle révèle des affects d'attente et de soulagement. Quand on sait que quelque chose est fragile, on craint qu'il se casse, mais quand l'irréparable intervient, à ce moment-là, on est soulagé. Il y a un renversement joyeux de la brisure, le soulagement qui engage une étrange paix quand la catastrophe redoutée est survenue, comme le montre ou Dostoïevski ou Kierkegaard. La métaphore du verre met en évidence l'ambiguïté par rapport à la fragilité, à la fois puissance d'attrait, fascination, mais en même temps crainte de brisure. C'est à la fois un bien, alors concernant le cristal par exemple, c'est un bien à la fois convoité, un objet de jouissance, mais en même temps une capacité de discernement, et puis à travers la boule de cristal, la révélation de l'avenir. Disons pour finir sur le verre que c'est le symbole de la finitude humaine. Une apparence de solidité, mais une fragilité extrême, l'angoisse de la fin du monde et de la vie de chacun. Pour saint Augustin, l'homme est plus fragile que le verre, car il naît dans la chute du mal, sa vie est brève et sa mort est programmée. Une autre figure de la fragilité, une autre métaphore, c'est celle de la fêlure. La fêlure, elle est intéressante parce qu'elle montre le début, le commencement de la fracture, c'est-à-dire une façon propre de désigner la fragilité, de s'en accommoder et de vivre avec. Quand elle concerne la personnalité ou la relation, elle apparaît comme une fragilité irréparable, irrémissible, mais identifiable. La fragilité qui n'abolit pas la viabilité, mais la relativise. On sait bien qu'on a des objets qui sont fêlés, mais on les garde quand même et on y fait attention. La fêlure est donc une image du réalisme humain qui s'accomplit dans des conditions difficiles et parfois en tremblant. La fêlure, c'est ce que rien ne peut masquer, parce que si on a un objet, on ne va pas essayer de le masquer, de masquer la fêlure. C'est en même temps ce qui reste enfoui, dissimulé, secret. C'est ce qui prend la forme du non-dit, du mensonge par omission. Et c'est quand même ce qui est là, comme dans la dépression. Et là, il renvoie à Scott Fitzgerald. Je ne sais pas si vous avez lu ce petit texte qui s'appelle « La fêlure », dans lequel Fitzgerald montre une défaite ultime, un enlisement personnel, un enlisement dont on ne prend conscience qu'au terme d'une descente aux enfers de la connaissance de soi. Autre figure de la fragilité, c'est l'observation des ruines. Les ruines suscitent une méditation rêveuse sur la fragilité. Il y a selon le mot de Diderot, une poétique des ruines. Ça correspond à une mise en scène des traces d'un passé sublime, mais désormais éteint, disparu, mais pas complètement, puisqu'il en reste quelque chose. Seul règne le silence évocateur propre à la réflexion sur soi, sur le destin des vestiges et sur notre histoire humaine. Les ruines posent la question de l'héritage qu'elles représentent. Faut-il les conserver et comment ? On s'est posé la question des ruines au sujet de sites comme Oradour, comme les fraîches industrielles, etc. Donc les ruines, c'est le miroir fatal de ce qui nous attend. Ça met en évidence la caducité et les vicissitudes de l'humanité. Les ruines posent explicitement la question de notre rapport ambigu à la temporalité. Tourné vers ce qui renaît et qui réapparaît autrement, nous sommes essentiellement tournés vers l'avenir, mais en même temps, nous sommes tournés vers ce qui a disparu. Nous éprouvons un regard nostalgique vers la grandeur et la pureté perdue, d'où la recherche d'authenticité à travers les brocantes, les reliques, la généalogie, etc., etc. Autre lieu commun de la fragilité, ça va être le quatrième, je crois, c'est les formes de la beauté. La beauté qui participe ou de la nature ou de l'art. Entre le fragile et le beau, il y a un lien circulaire. Ce qui est fragile, en général, est beau. Mais en même temps, cette beauté n'a qu'un temps. C'est précisément ce qui fait sa fragilité. C'est tout le charme de la jeunesse, essentiellement éphémère, toujours, dit-il, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, en rappelant Proust. Ce qui fait le beau, c'est sa fulgurance. Comme dit Plotin, l'éclair dans la nuit, l'événement insaisissable, comme la lumière sur la cathédrale de Rouen que cherchait Manet, à travers une série de tableaux de la cathédrale. La fragilité est intrinsèque à l'œuvre elle-même, parce qu'elle s'inscrit toujours dans la modernité, parce qu'à ce titre, elle peut vieillir. On dit d'une œuvre, eh bien, elle a vieilli, elle n'est plus d'actualité, elle a passé de mode. Et Baudelaire disait « Elle porte l'estampille du présent ». Néanmoins, le débat n'est pas clos parce que le risque de l'œuvre, c'est aussi le lieu de sa force. La sphère esthétique est héraclitéenne. Elle est inépuisable dans son essence. Elle traverse le temps malgré ses altérations. Et c'est l'indice de son inaltérabilité. Bref, ce qui fait le beau, c'est une image de la fragilité, c'est le rayonnement de la finitude et la double polarité, à la fois la précarité et la promesse de sens et de lumière. À partir de l'ensemble de ces métaphores, de ces lieux de la fragilité et de l'image de la fragilité, l'auteur va expliciter une fragilité plus centrée sur l'homme. Et le premier choc de la fragilité, ça va être l'idée de la mort et surtout l'oubli de la mortalité. Cette méditation classique en philosophie conduit à deux attitudes, où la mort nous rend désespérés, le nihilisme, ou alors on oublie complètement qu'on est mortel et c'est la mise à distance de tout attachement. Alors Jean-Louis Chrétien propose, lui, une troisième voie, une sorte de dialectique qui consiste à maintenir ensemble la mémoire d'un côté et l'oubli de la mort de l'autre. Et cette posture est représentée par deux modèles, l'un représenté par Pierre Nicole, 1625-1695, et l'autre par l'approche stoïcienne de Sénèque. Alors, Pierre Nicole, l'attitude naturelle, c'est l'aveuglement. L'oubli de la fragilité, c'est-à-dire ce que Pascal appelait le divertissement. L'impuissance de la raison sur la passion. Et dans cette perspective, seule la grâce divine permet de surmonter l'insurmontable. L'approche stoïcienne est plus complexe, plus intéressante aussi. Elle s'appuie sur la rhétorique de la consolation, qui consiste à s'écarter du champ particulier pour aller vers le cadre général, la condition humaine en général, et Sénèque propose de faire de la mortalité un événement présent. Nous mourons chaque jour. Nous regardons l'égalité de vous, de tous, devant cette fragilité. Nous devons dominer et maîtriser la providence, se réfugier dans une partie supérieure de nous-mêmes, c'est-à-dire l'âme, et atteindre la tranquillité de l'âme. Rien ne peut nous surprendre. Pour Sénèque, la mémoire de la fragilité assure deux fonctions. La fortification par l'épreuve, la résistance, l'endurance, la résilience, Et puis la maîtrise de la temporalité, accepter ce qui passe et refuser la procrastination. Dans le chapitre qui suit, dans le chapitre 7, Jean-Louis Chrétien aborde l'interprétation chrétienne de la fragilité. La fragilité étant une dimension de la condition humaine liée à la blessure du péché originel, il s'agit donc de vivre avec, en s'appuyant sur la conscience et la lucidité de l'homme. Il s'agit de s'appuyer sur la fragilité pour se relever, pour se mettre debout, et selon la formule de saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et cette transfiguration de la fragilité s'incarne à travers trois figures, saint Ambroise, Jean Cassien et saint Augustin. Alors je résume énormément pour passer ces trois auteurs. Pour saint Ambroise, l'intelligence de la fragilité et la lumière de l'esprit donnent la force de résister. Elles fondent l'espérance, qui est la face lumineuse de la fragilité. Et elle se déploie dans des dimensions pratiques que sont la fraternité, la sollicitude, la miséricorde, le pardon. Alors Jean Cassien, c'est à peu près le même esprit, Jean Cassien qui a organisé la vie monastique. Alors pour lui, la conscience de la fragilité fonde une ascèse, mais une ascèse modérée, partageuse, qui vise à l'indulgence mutuelle, la miséricorde, le pardon. Ce partage, pour lui aussi, c'est la face lumineuse de la fragilité humaine. Pour saint Augustin, la fragilité est d'origine divine et elle forge l'humilité et la résilience. Là où est le péril, croit ce qui sauve. C'est ce principe même d'une espérance active, déterminée, qui ne cède rien, qui est inséparable de l'agir. C'est ce qui me permet d'espérer contre tout espoir, ce qui fait de la fragilité une arme de libération, ce qui suscite l'effort de la volonté dans le quotidien et la mise à l'épreuve de chaque instant. En résumé, ce qu'on peut dire de l'approche chrétienne, c'est que la fragilité est un concept décisif pour appréhender la condition humaine et elle traduit le conflit permanent de l'esprit face à la chair, la recherche de la lumière et du sens, tout en sachant qu'elle ne peut s'accomplir sans Dieu. Face à la pensée chrétienne de la fragilité, la pensée laïque de Kant aborde autrement la fragilité. Alors, la fragilité, pour Kant, ce n'est plus un effet de Dieu qui oblitère la condition humaine, et nous enferme dans l'effort de la réparation ou de la rédemption. Kant opère un renversement. Ce n'est pas la fragilité qui explique la condition humaine, c'est au contraire la condition humaine, la liberté, la responsabilité qui explique la fragilité, c'est-à-dire l'inclination vers le mal. Kant définit trois niveaux de la fragilité. Premièrement, la fragilité en tant que telle, et là, c'est le simple constat de l'impuissance entre l'intention bonne et ses effets concrets. Ce n'est pas encore un principe d'explication. Le mal est lié à l'habitude et à toute forme de renoncement à l'autonomie de la volonté. La véritable fragilité commence avec le deuxième niveau, qui est l'impureté. L'impureté qui est très fréquente et qui indique, qui souligne le clair-obscur dans lequel s'exerce la loi morale. La loi morale n'est jamais pure, dit-il. Il y a toujours des motifs parallèles qui coïncident avec la loi morale. Par exemple, si je paye mes dettes envers quelqu'un, ce n'est pas uniquement parce que je lui dois de l'argent, c'est parce que, en lui rendant l'argent, j'espère qu'il va me reprêter une autre fois. Vous voyez ? Donc, il y a une impureté dans la loi morale. Et puis, troisième niveau, c'est la méchanceté. Alors, la méchanceté, c'est l'idée même de la faute intentionnelle. Faire le mal pour lui-même tout en se protégeant derrière la légalité. La radicalité du mal renvoie à une sorte d'ennemi intérieur qui correspond au refus de résister à l'inclination au mal. Et c'est pourquoi, si l'on veut comprendre ses actes, il faut faire, selon Kant, un travail sur soi et, entre guillemets, ce qu'il appelle « effectuer la descente aux enfers de la connaissance de soi ». Dans la méchanceté, la loi morale n'est pas abolie, elle est simplement mise en sourdine, occultée par les œillères du mensonge. C'est pourquoi l'homme n'est jamais radicalement mauvais. Mais je ne suis pas toujours responsable de ce que je fais. Excusez-moi. L'homme n'est jamais radicalement mauvais, mais je suis toujours responsable de ce que je fais. L'agir est fondamentalement intelligible et je n'ai aucune circonstance atténuante. Au nom de la loi, je dois privilégier ce qu'il y a de plus noble en moi et ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi on trouve chez Kant un éloge des affects courageux, la lutte contre l'inclination au mal, qui est un combat de chaque instant et qui, dit-il, a une lumière d'aurore parce que c'est chaque jour et à chaque instant que je dois refaire cet acte. Avec cette réflexion, on rencontre le versant pessimiste de Kant, l'aporie du penchant au mal, qui explique cette contradiction qu'on a à la fois besoin de maître, mais en même temps que personne ne peut nous tirer de nos enfers. Nous sommes toujours face à nous-mêmes, dotés d'une insociable sociabilité, obligés de cohabiter et de trouver la meilleure société possible. L'ouvrage se termine sur un épilogue dans lequel est mise en valeur la manifestation suprême de la fragilité humaine, à savoir la voix. La voix, dit-il, est le support de la temporalité, le support de l'émotion et le lieu où s'énonce le sens. La fragilité de la voix qui témoigne de la puissance humaine, qui témoigne de la puissance humaine de se transmettre, de se renouveler et de s'inscrire dans l'espérance. La voix qui est au fondement d'une effrayante responsabilité, dit-il, elle est liée à la puissance des commencements et à des inlassables recommencements. La dernière phrase du livre, je voudrais vous la citer parce qu'elle est jolie. C'est donc la fragilité seule qui forme la demeure de l'impérissable dans le monde. Seule la barque fragile de la voix humaine peut jeter son ancre dans le ciel. Voilà, j'ai terminé. Je voudrais juste ajouter une remarque personnelle. C'est que la lecture de ce livre m'a un petit peu frustré parce que j'y ai pas trouvé la problématique contemporaine de la fragilité que j'avais cherchée au départ. Mais en même temps, quand j'ai relu mes notes dans un deuxième temps, je me suis aperçu que ces réflexions, ces métaphores, ces lieux où s'inscrivent les diverses formes de la fragilité pouvaient en effet alimenter un discours sur la fragilité contemporaine. Le débat philosophique qui se déploie ici entre deux versants ambivalents, la fatalité de la fragilité d'une part, la responsabilité de l'autre, constitue un gisement de concepts pour penser la fragilité contemporaine. Ce qui me fait conclure que la philosophie ne se donne pas telle qu'elle comme un prêt-à-porter, qu'elle ne peut pas être une réponse personnalisée à ces questions, mais qu'elle est essentiellement suggestive, elle stimule et éclaire une réflexion qui reste à faire et que personne ne peut faire à notre place. Voilà, merci beaucoup.